bonjour, c'est Hervé, vous êtes sur Radium pour l'émission Remue-Ménage.
Bonjour, c'est Christian.
Bonjour, c'est Karine.
Bonjour, c'est Jean-Pierre.
Bonjour, c'est Jimmy à la technique.
Bonjour, c'est Layla à la technique.
Bonjour à tous, c'est Julie.
Salut, c'est Sophie.
Bonjour, c'est Marie.
Voilà, ben, on accueille Marie pour la première fois. Bienvenue à Marie, qui est parmi nous, qui est infirmière. Donc ça, c'est version luxe aujourd'hui, c'est qu'on est toutes réunies et tous. Et voilà, bon, on est là pour une nouvelle émission, on est content de vous retrouver. Et on va démarrer le sujet avec Karine, qui voulait parler de, voilà, d'une sortie qu'on a fait la semaine dernière.
Oui, nous sommes allés visiter le musée Toscane.
Ouais. C'est au musée des abattoirs, et c'est une expo sur...
Un psychiatre catalan qui a fait du bien pour tout ce qui est maladie psychiatrique, là.
C'est tout à fait ça. Tosquilles en espagnol et Tosquel en français.
Voilà. Ouais.
Ouais, ouais.
Et c'est vrai que c'était intéressant. Moi, j'ai pas tout lu exactement les articles qui mettaient à son sujet, mais c'est vrai que c'était intéressant du coup de voir les œuvres qu'il avait fait là, les sculptures là, il y avait des affiches aussi qui avaient des affiches, je crois, publicitaires là.
Oui, c'était un petit peu de la propagande aussi, parce que c'était une époque, en fait, c'est tout un courant communiste. Et donc, ça retrace, si vous voulez, un petit peu le courant politique de l'époque, puisque c'était juste après la guerre d'Espagne. Voilà, donc il y avait effectivement autour de Tosquelles un petit peu tout cet univers-là. Et donc, les objets dont vous parlez, ce sont effectivement, c'est l'art brut, ce sont des objets sculptés par les patients dans les asiles, dans les camps, qui ont été collectés et qui font maintenant l'objet de... d'exposition, c'est des collections après, effectivement.
Ouais. Oui, c'est vrai que c'était pas mal, là. Mmh. Notamment la salle là, qui était très moderne, là, sur des... Enfin, j'appelle ça les ballons, moi, des espèces de ballons rouges et blancs, là. C'était... Ouais, moi, c'est vrai que moi qui aime bien le moderne, là, du coup, c'était bien... architecturalement parlant, c'était bien conçu, quand même, je trouvais.
En fait, un des mots d'ordre de ce psychiatre, c'est de déconner. Il disait comme si il fallait déconner.
Ouais, voilà, ouais.
C'était le meilleur moyen de se soigner, c'est de ne pas se prendre au sérieux et de se déconner. Donc, en fait, quand on parle de lui, il parle de la déconiatrie, pas de la psychiatrie. Il fait une espèce de jeu de mots. Mmh. Et donc, effectivement, parmi toutes ces salles d'expo, qui sont effectivement très fournies, avec beaucoup de choses à lire, c'est vrai que c'est très, très dense. Il y avait cette espèce de pièce où, effectivement, on a envie de déconner parce que c'est des grands ballons rouges et blancs avec des miroirs partout, donc qui se reflètent. Donc, vous rentrez là-dedans, vous avez l'impression d'être au milieu, d'être Alice au Pays des Merveilles, en fait, dans un univers complètement psychédélique. Et ça faisait partie un peu du thème.
Voilà. Et du coup, les œuvres exposées, c'est des sculptures essentiellement ?
Oui, il y avait des sculptures, après il y avait des affiches, après il y avait des...
Beaucoup de journaux, de photos. Et puis des œuvres des patients, ouais.
Et je me demandais si ce psychiatre, il connaissait en fait un peu le yoga du rire. Parce que pour déconner...
Oui. C'est peut-être l'ancêtre du yoga du rire, effectivement.
Oui, ça se pourrait, du coup...
Ouais, donc il y avait, effectivement, exposé beaucoup de choses différentes de lui, et puis après, de tous les psys qui ont été inspirés par sa façon de travailler. Et donc, effectivement, tout un tas d'œuvres de patients, de patients collectés dans les camps. Parce qu'il a fui l'Espagne, et il s'est retrouvé dans un camp en Ariège, où ils étaient, je crois, 500 000. Et donc, il a organisé déjà la psychiatrie un petit peu dans ce camp-là.
À quelle époque
c'est dans les années, fin des années 30. Hein.
Les années Franco.
Oui, c'est ça, mais il a fui le régime le Franco. Et donc, oui, il a commencé à organiser un petit peu la santé mentale dans les camps, comme ça. Et puis, il a inspiré beaucoup de psys qui se sont aperçus que dans le soin, il pouvait y avoir de l'art aussi, que les patients pouvaient prendre un petit bout de bois et se mettre à sculpter et faire des choses très belles. Et c'est parti un petit peu de là. Donc,
Je me suis coupé un doigt en faisant ça. Quand je suis arrivé à Albi, ma sœur était canébéniste. Et je faisais un CAP de menuiserie à Croix-Rouge, à Reims. Et je me suis coupé le doigt, là, avec une scie à ruban. Il manque un bout de doigt, là.
Et vous étiez en train de travailler sur quoi ?
Sur une scie à ruban. Je faisais un cendrier.
D'accord, ouais, ouais.
Et j'ai le doigt qui est...
Bah, je pense qu'il y en a un paquet qui se sont fait mal au doigt aussi.
C'est venu jusque-là. Et jusque-là.
De toute façon, il me semble que... Fin... La folie est créatrice. Enfin, quand tout va vite, les idées dans la tête, ça permet de produire. Et je pense que beaucoup de grands artistes avaient un brin de folie. Et ça permet de, la création.
Oui, c'est tout à fait lié. Hein. Donc, il y a effectivement les artistes qui arrivent à gérer et la folie et la création. Et puis tous ceux qui étaient dans les asiles et qui ont finalement été un peu guidés par ces psys qui ont reconnu le talent... Et surtout l'aspect thérapeutique de la création, quelle qu'elle soit, la sculpture, la peinture, la photo, enfin, tous ces outils qui servent effectivement à canaliser un esprit, la folie. Hein.
Et je trouvais que ça manquait de guide, si tu veux, parce que c'était un peu fouillis.
Alors, on va le conseiller. Effectivement, l'expo, elle est jusqu'au 6 mars.
Oui.
Donc, aux abattoirs. Et effectivement, s'il y a moyen de trouver un guide, c'est peut-être pas mal.
Ouais. C'est l'expo que vous nous aviez proposé aux Osiris ? Oui.
Oui, mais voilà, parce qu'on n'a pas pu avoir de guide. Et je pense que pour bien comprendre l'expo et pour en profiter vraiment, c'est important d'être guidé. Parce que sinon, il y a énormément de lectures. Et au bout d'un moment, on peut se lasser. Mais après, sinon, tout est expliqué dans la lecture, j'imagine. Mais voilà, il faut prendre le temps de lire et de comprendre.
Ouais, il y a beaucoup de pièces et c'est très dense en termes, effectivement, de textes, de photos, de dessins et d'articles aussi, d'articles de journaux. Donc, effectivement, si chaque pièce peut être un peu synthétisée pour arriver au bout, parce qu'on n'a même pas fini le musée, tellement il y en avait à lire, donc ça vaut le coup d'y retourner. Et puis sinon,
C'est où ?
Le musée des abattoirs à Toulouse.
Ah, je connais pas.
C'est un super musée où il y a plein d'autres choses. Et puis après, sinon, vous allez sur Internet et vous tapez François Tosquel, psychiatre catalan. Vous aurez des vidéos.
Ah,
vous aurez plein d'infos.
François Tosquel.
Ouais. Et c'est
E2L.
E2LES.
E2LES.
C'est vraiment un des psychiatres qui a fait énormément de bien, la psychothérapie institutionnelle, l'hôpital qui soigne la maladie mentale. Donc ça vaut le coup.
Ok. Voilà.
Et c'est super qu'il y ait eu une expo à son sujet. C'est super qu'un grand musée fasse une expo sur la psychiatrie. Voilà. Et vite fait, à Paris, il y a aussi un musée qui fait ça. Il est à la Halle Saint-Pierre et c'est un musée qui est spécialisé dans l'art brut. Ça n'est que des œuvres de patients, de gens qui ont séjourné à un moment donné en psychiatrie. Voilà, parce que qui ont cette espèce de création qu'ils arrivent à gérer ou pas, mais avec des choses très belles, très fortes. Hein, en général, c'est... Voilà. Je sais pas moi, qui c'est qui veut s'exprimer sur la création dans l'hôpital
Moi, quand j'étais au BS, à Albi, je suis allé plusieurs fois, Bon Sauveur, on faisait du dessin, j'allais beaucoup à la bibliothèque chercher des livres, des bandes dessinées. Il y avait une bibliothèque magnifique. Au Bon Sauveur, il y a une bibliothèque qui est superbe. J'allais emprunter des BD et on faisait du... Enfin, une fois, j'allais être hospitalisé, on faisait de la musicothérapie.
Ouais.
J'étais dans un service fermé qui s'appelle Saint-Bernard. Et c'était un gars qui... Donc on le rencontrait dans une pièce noire. Enfin noire, ou presque noire, ouais. Et il nous passait de la musique sur des vinyles.
Donc vous écoutiez, là ?
On écoutait, ouais. Sur des poufs.
Ouais.
Des gros poufs, là, vous savez, avec les boules dedans, là. Un truc comme ça, là.
Ouais, pour être bien relaxé.
On se mettait là-dessus et on écoutait la musique.
Et alors, c'était...
Ça faisait du bien, parce que...
C'est lui qui choisissait les musiques, c'était pas vous.
Oui, c'est lui qui choisissait les musiques.
C'était ciblé.
Ouais.
D'accord. Avec, j'imagine, plein de styles de musique différents.
Ouais, bon, c'est vieux, ça, je me souviens pas très bien des musiques, mais...
Alors, le but, c'était juste d'écouter ou est-ce que vous exprimiez après ?
Non, on est venu d'écouter, juste.
D'accord.
On parlait pas. Après, on sortait. Ça durait une heure.
c'est aussi une façon de s'évader.
Comme j'étais en service fermé, ça faisait du bien de passer une heure comme ça.
Parce qu'effectivement, il y a un atelier de musico-réceptive où effectivement les morceaux sont choisis en amont avec vraiment des styles très différents. Et les personnes qui y participent, elle n'a pas en parlé puisqu'elle y a participé un moment. Ça serait pas mal que vous disiez un petit peu comment ça se passait, votre ressenti.
Donc les soignants choisissaient des musiques. Il nous est arrivé nous-mêmes de choisir aussi des morceaux à l'avance. Enfin, chacun un morceau pour faire découvrir aux autres. Ça a été fait plus tard. Et après, les morceaux, on parlait du ressenti sur ce qu'on avait entendu. On s'exprimait, et les soignants, ils notaient ce qu'on disait. On en parlait, en fait, de ce qu'on avait ressenti par rapport aux morceaux.
Parce que les morceaux sont choisis, effectivement, c'est pas de l'écoute musicale avec les morceaux qu'on écoute à la radio, des choses forcément commerciales, c'est souvent de la musique classique, des musiques du monde, pour que ça réveille des choses, vous voyez, pour que ça... Là, je me souviens qu'il y a eu des séances qui étaient assez fortes, parce que ça faisait remonter des choses, ressortir des choses qui
ça
sont
enfouies. Ça faisait ressortir des choses sur le passé, beaucoup. Et des fois sur des choses imaginaires, sur des choses que j'aurais voulu, par exemple.
Oui, c'est ça, ça faisait fonctionner l'imaginaire, qui est aussi un outil important à travailler. Hein. Ouais.
C'est énorme ce qu'on peut ressentir à travers un morceau de musique, les émotions qui remontent, alors qu'il n'y a pas forcément de paroles, de choses induites. Et une personne lambda peut ressentir quelque chose, une autre carrément autre chose. Et c'est propre à chaque personne.
En règle générale, c'était des morceaux où il n'y avait pas de paroles.
Oui, c'est ça, oui.
C'était des morceaux surtout avec de la musique. Et quand on est réceptif à la musique, quand on a une certaine sensibilité à la musique, parce que tout le monde n'est pas sensible à la musique, ça peut faire ressortir des choses plus importantes.
Ah oui, de toute façon, forcément, ça fait toujours ressortir des émotions, positives, négatives, mais il en ressort toujours quelque chose. Et c'est effectivement ce que tu disais, Julie, c'était tout à fait ça. C'est que, par exemple, dans cette séance, vous étiez quatre, trois ou quatre, et sur un même morceau, il y avait vraiment des ressentis totalement différents. Et des choses qui remontaient, qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Et c'est ça qui est intéressant, sur une même musique. Voilà, ça c'est encore un outil intéressant.
Comme moi, quand je travaille un morceau, là, c'est la chanson de Madame Monsieur, là. Je ne sais pas si tu connais. À chaque fois que je la chante, ça me fait quelque chose, cette chanson.
Oui, vous me l'avez dit l'autre jour. Celle-là et certaines autres aussi, vous avez des émotions qui remontent...
Oui, ça, je ne sais plus laquelle chanson je t'avais parlé, là. Il y en a une autre qui me fait... Ça me fait pleurer, là. Notamment celle-là. Et une autre, je ne me souviens plus laquelle, mais alors, c'est vrai que... c'est sur certaines chansons, hein, ce n'est pas sur toutes. Hein, c'est vrai que, du coup, ça doit me parler plus, là.
Jean-Pierre, la musique, qu'est-ce que ça vous... Est-ce que vous en écoutez? Est-ce que vous êtes sensible à la musique?
Oui, j'écoute beaucoup de chanteurs, de musique, de tout. Il y a qui chante bien.
Vous
adorez
Mike Brandt?
C'était mon chanteur préféré de ma jeunesse, et je sais pas pourquoi.
Il s'est suicidé, lui. On sait pas.
On le sait pas.
Ah bon?
On le sait.
De
moi-même, c'est à 12 ans, 11 ans. Même 9 ans, 10 ans, 11, 12 ans, jusqu'à... J'ai toujours aimé ça, je ne sais pas d'où ça vient. Il mentait pas.
Votre maman,
écoutez. Oui, par exemple, mon père aussi. À BTS, c'était 14 ans, fait à la voix. Il y avait Claude-François, Patrick Juvet, Maïvan. Il ne renouait jamais d'où, mais il y a du monde. Le bus, le car de Claude-François sortait, il passait que de nous, mais les rideaux étaient baissés, vous le voyez, on l'a pas vu. Il y a Patrick qui chantait, après Maïvan est venu, il dit oh non, Jamadou, c'était bien. Mon père, il a une heure, il a pris, il va acheter les places, il voulait acheter. Non, c'est compliqué, il fallait être à 7-8 heures du matin. On le savait pas, c'est, mais tous, ils étaient tous bien, quoi. J'ai vu un clip, là, une émission. Il chantait, mais il pensait à l'argent moyennement, quoi. Maintenant, il se remplit ses poches, comme tout. Quand on le voit chanter, on ne voit pas des billets dans les poches. C'était l'amour de la chanson, quoi. Maintenant, c'est l'amour d'argent, quoi. C'est joli, ça, quoi. Le vaudor de l'époque, vous savez, au temps de mourir, c'est l'argent. Le vaudor, c'est l'argent, maintenant.
Et Christian, est-ce que vous avez une sensibilité à un art particulier, plutôt le dessin, les chansons, la musique, c'est quoi plutôt votre l'art vers lequel vous iriez?
Non, je n'ai pas trop. Non, je n'ai pas bien le particulier. J'aime bien la musique. Et les tableaux, il y en a 3-4, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Mais l'art, ce n'est pas absolument comprendre. C'est ce que vous ressentez quand vous regardez un tableau.
Je ne comprends pas, ça ne m'intéresse pas.
c'est le problème d'être complexé par rapport à l'art. C'est dommage. Il faut juste voir qu'est-ce que vous ressentez. S'il y a un tableau que vous trouvez beau, on s'en fout de savoir ce que ça veut dire.
Oui, mais un tableau beau, tout ça...
Dans les artistes, est-ce qu'il n'y a pas, je ne sais pas, ou Picasso, j'en sais rien, ou Dali,
oui, Picasso,
ou est-ce qu'il
n'y
a pas des tableaux qui vous plaisent je les cite eux, mais ça peut être...
Picasso, Dali...
Est-ce que tu es allé à Cadaqués?
Eh?
Est-ce que tu es allé à Cadaqués?
Oui.
Oui, le musée Dali, il est joli là-bas.
Ouais.
Je suis allé le voir.
Oui, je suis à Cadaqués, Valoris...
Valoris?
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a à Valoris?
Moi, j'ai habité à Valoris, c'est la ville des potiers.
Et Christian, il y a quoi à Valoris?
Eh bien, des musées de... Il y avait tous les peintres de l'époque, Picasso...
Oui, il y avait Jean Marais aussi, qui avait...
Donc, vous connaissez quand même, vous
intéressez. Oui, non, mais oui, je suis sorti quand même.
il faut le dire.
Il y a Grasse à côté aussi, là où ils font le parfum.
Mais Grasse, j'ai logé, alors je connais.
Ah, c'est joli, Grasse.
Donc, il y a des artistes qui vous plaisent sans forcément se dire je comprends pas.
Moi j'ai fait le Verdon.
Hein?
C'est une sévère, je sais pas quoi. Hein. Après, j'ai fait. Saint-Tropez, je suis allé voir le café à Saint-Tropez.
Si vous deviez mettre un tableau au mur chez vous, vous mettriez quoi par exemple?
J'en ai plein de tableaux. Je ne sais pas quoi ils ressemblent.
Hein. C'est des tableaux de quoi?
Mais que j'ai achetés, qui me plaisaient.
Et qu'est-ce qu'ils représentent quoi?
De l'abstrait.
Ouais. Et l'abstrait pour comprendre, là, pour le coup, hein, vous voyez?
Oui, non, mais il me plaît. Il y a des couleurs,
mais voilà.
Là, après, il y a une femme avec des lèvres bleues. Oui, non, mais j'en ai acheté des tableaux.
Ouais.
J'avais rien. Non.
Donc vous êtes sensible à l'art aussi?
Et
vous êtes sensible à l'art? Vous êtes sensible à la peinture, hein?
Oui, oui, ouais. Non. Mais... Le tableau, il m'a payé, je l'ai acheté. Non, mais il y a plein de choses. Il y a... Des choses en terre cuite qui sont pas mal.
Tout à fait. Ouais.
Après, elles sont tombées, on les met de côté, mais à un moment, ça fait des choses. Si je vais acheter un tableau avec une étiffée d'aile de papillon.
Ah ouais?
Ouais.
Ça, c'est trop beau, ouais.
Et là, je l'ai essayé. Quand j'ai déménagé, il n'y avait pas la place. Je l'ai essayé.
Je crois que Jean-Pierre avait dit quelque chose.
J'ai regardé hier soir le journal de Radio de Midi-Pyrénées. Alors, ça, c'est à Toulouse. Il y avait une dame, la grande directrice, la patronne. Elle dirait déjà un peu plus tard, pas très longtemps, vivre sur la Lune. C'est sympa. Thomas Pesquet, tu vois. Il doit analyser s'il y a trop de monde sur Terre, on peut vivre sur la Lune, ça fait plaisir. Et sur Mars, c'est de l'eau de l'air, il a dit.
Bon, et du coup, ce soir, qu'est-ce qui se passe ce soir?
Champagne.
Non, non, champagne. Sans alcool, la fête est plus folle.
On n'a jamais droit à l'alcool.
Ben, ce soir, Laïla, vous voulez en parler un petit peu de ce qui se passe ce soir?
Il y a l'inauguration de l'exposition que j'ai parlé la semaine dernière. C'est l'exposition photo de l'atelier photo de l'hôpital de jour d'Élise sur la déconstruction et la reconstruction de l'hôpital Gabarou au Carré Gambetta, à Castres.
Voilà, bah super. Auquel vous avez participé,
hein? Oui, j'ai fait quelques clichés.
Ouais, ouais. Ouais, ouais. Surtout de nuit.
Oui.
Alors, comme c'était de nuit, mais malheureusement, on ne voit pas grand-chose. Non, non, mais voilà, vous avez participé pendant un temps, donc vous savez, vous connaissez un peu le sujet. Oui, ben voilà, c'est une texte pour ce soir à la Bruyère.
Il y avait un article à Dépêche.
Oui, il y avait un article dimanche, oui, oui, oui. Et oui, on a tourné autour de cet hôpital pendant 7 ans, hein, voilà, le prendre en photo, quand il détruisait, quand il reconstruisait.
Et moi, j'ai habité pendant un an.
Où ça?
Au Carré Gambetta.
Ah, mais oui, c'est vrai.
Ouais, j'ai été soigné par M. Verger à l'époque.
Oui,
à l'hôpital.
En psychiatrie,
ouais.
À l'hôpital.
Ouais. Oui, cet hôpital, il touche beaucoup de castrés, je pense, et de castrées. Hein. Et puis de soignants bon, qui sont sur le chic maintenant, mais qui ont travaillé. C'était vraiment un lieu quand même assez stratégique. Hein. De Castres, donc c'est vrai que de voir quelque chose comme ça se transformer et ouais. Pour devenir autre chose, c'était intéressant. Donc voilà, ça nous a intéressé de témoigner de ça.
Oui,
voilà, donc ce soir, on va présenter ça.
Est-ce que vous allez refaire la même avec le Collège des Cèdres? Parce que le Collège des Cèdres, là, c'est un sacré bâtiment aussi. Qu'est-ce que la mairie va faire à tout ça? Idée pour plus tard. Hein.
Là, on est parti sur les arbres. Là, le béton, si tu veux, c'était pas mal, mais maintenant, on part un peu dans la nature. On a besoin de verdure. Voilà. Ben, d'ailleurs, Hervé, vous l'avez vu cette expo hier? En
oui,
avant-première.
J'ai vu,
on peut le dire.
Bon. J'ai vu ça. J'ai lu que c'est l'hôpital d'Élise qui fait un atelier photo. On commençait à voir la démolition à gauche. Et la démission de l'hôpital et tout ça. Après, je suis rentré, moi. J'ai été dans l'autre expo.
Ouais.
Là où il y a les masques.
Oui, il y a encore effectivement dans le
musée. Apparemment, ce n'est pas la même expo, d'après ce que j'ai compris.
Il y en a plusieurs, en fait.
Il y a deux expos.
Il y en a deux. Nous, on est dans l'atrium et puis donc, dans le musée Arthur Battute, dans l'espace photographique.
Voilà.
Il y a Arnaud Chauchon qui expose jusqu'à fin février.
C'est magnifique.
Ouais. Ouais, ouais, c'est une super expo.
Il y a des appareils photos de l'époque et tout.
Alors ça, c'est encore autre chose. C'est vraiment le musée Arthur Battute d'origine, avec les premiers appareils photos, puisque Arthur Battute était le précurseur de la photo par cerf-volant. En fait, l'ancêtre de la photo par drone maintenant, les photos aériennes qu'on peut faire, c'est avec des drones, entre autres. Mais à l'époque, le drone n'existait pas, puisque je parle de fin 1800, début 1900, je crois.
1850, il y avait des bouquins.
Ouais, ça commence déjà.
1830.
Oui. Ouais, mais le cerf-volant, je sais pas, c'est pas un peu
le cerf-volant, les bouquins, il y avait des bouquins aussi.
Oui, il y a tout un tas de vieux appareils, enfin, c'est super à voir. Ce musée, il est très intéressant,
très joli,
sur plein de points. Voilà.
C'est très beau.
Il y a Justine qui nous fait un petit coucou.
Salut Justine, c'est sympa de nous écouter.
Bonjour merci. Justine.
Alors, ouais, Jean-Pierre, oui.
Hier soir, à Canal, puis j'ai regardé demi-heure une émission. Un robot comme des chiens, des petits poneys, il salue, bouge la tête, il dit merci, tout. Il se déplace comme ça, il salue comme ça, et il danse tout. Les États-Unis sont aussi forts que nous, quoi. Attends, avec ces animaux, j'ai vu ces animaux mécaniques, s'il dit bonjour, il salue, tout, c'est joli à voir. Je ne sais pas rêver. J'espère que je n'ai pas rêvé, c'est un délai. Mais vraiment.
Bon, bah, ce sont les petites minutes intermèdes de Jean-Pierre.
Non, mais de ce que j'ai compris, Jean-Pierre aime bien regarder la télé, et puis pour en revenir à l'art, la télé, le cinéma, enfin, il y a des choses magnifiques, de très beaux films, de très beaux reportages, de très beaux documentaires, et ça reste une forme d'art, et a priori, vous y êtes sensible à cet art-là.
C'est vrai que comme film animalier qui est intéressant, du coup, que j'ai vu ça fait un moment, là, c'est Microcosmos, quand même.
Ah oui, je l'ai vu. À la télé ?
Ouais, je crois que j'ai dû le voir au cinéma. Ça fait un moment, je me disais, je suis pas sûre d'avoir vu au cinéma.
C'était magnifique, super.
Oui. C'est vrai que c'était impressionnant, là.
Sur la deuxième chaîne, enfin, France 2.
Les animaux qu'on voyait quand il y a tout petit, là, avec. C'est vrai que c'était vraiment chouette, quand même.
Et puis, au-delà des images, on se rend compte du boulot qu'il y a derrière et du matériel pour arriver à immortaliser des moments de la nature. Enfin,
ouais.
Et on parlait vous parliez tout à l'heure d'émotions en écoutant des musiques. Hein. Voilà, on peut aussi ressentir de très belles émotions en regardant des films.
Oui, c'est vrai que moi j'ai pas les mêmes émotions quand quand je regarde un film et quand j'écoute de la musique. C'est vrai que la musique ça me fait plus vibrer que le cinéma. C'est vrai que je vais pas souvent au cinéma parce que ouais ça me mais j'aime pas c'est vrai que j'aime pas trop ça là déjà le fait de regarder un film au cinéma ça me branche pas trop là c'est mais après c'est sûr qu'il y en a qui c'est des films intéressants hein, du coup hein, mais c'est vrai que je suis vraiment pas film.
Par exemple, vous disiez que vous étiez arrivé de pleurer sur des morceaux de musique. Est-ce qu'il vous est arrivé de pleurer devant un film qui vous touchait
Ah oui.
Quand même. Hein.
Oui oui. Hein, du coup, il y a des scènes de films qui me touchaient. Oui, c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois de pleurer hein, au cinéma.
Moi, ça m'est arrivé à Bohemian Rhapsody. Le film vraiment magnifique, l'histoire des Queens. Ou le sport, quand je revois des vieilles images de sport, comme la Coupe du Monde 98, ça me fait monter les larmes un peu.
Donc plutôt des larmes de joie, là, en l'occurrence. Quand
c'est l'émotion.
Ouais, des émotions. Comment vous. C'est quoi? C'est l'exploit sportif? C'est le rassemblement d'un peuple derrière des footballeurs à ce moment-là? C'est quoi l'émotion
qui. Le sport, c'est ce qui génère le plus d'émotions pour moi. Le sport et la musique. C'est lié.
Parce qu'il y a un dépassement de soi? Comment?
Oui, il y a un dépassement de soi. Et quand on a gagné la Coupe du Monde en 98, on a gagné la Coupe du Monde plus l'Euro. Et il y avait une équipe de rêve, quoi. Zidane, hein, Thierry Henry, Laurent Blanc, Barthès, Lizarazu, Emmanuel Petit, Thierry Henry, Thuram, oui, c'était...
Deschamps.
C'était grandiose. C'était grandiose.
Et du coup, est-ce que vous, il vous est arrivé en faisant du sport, parce que là, vous parlez de suivre des sportifs et tout ça, vous, en faisant du sport, est-ce que vous avez eu des moments de grande émotion?
Non, quand on fait du sport, on se dépense. Ah,
mais ça peut arriver quand, je sais pas, sportif, voilà, dépasse, a fait une super course, un super truc, ou des marathoniens qui arrivent au bout, mais qui se sont donnés, qui voilà, et il y a vraiment de grandes émotions, on le voit, il y en a qui s'effondrent en pleurs dans les bras de gens qui sont là à l'arrivée parce qu'ils ont été au bout d'eux-mêmes.
Enfin, j'ai jamais fait un marathon. Ça me paraît difficile. 42 km à pied.
En courant.
En courant, plutôt, oui.
Moi, je risque de pleurer à l'arrivée, ouais. Si je l'ai fait.
Mais c'est là où ça m'émeut aussi, c'est que, par exemple, je peux avoir des émotions, par exemple, quand je vois une publicité à la télé. Enfin, c'est pas toutes les publicités. C'est, par exemple, quand ils passent, quand ils font la promo pour gagner les Restos du Cœur, là. Alors ça me fait quelque chose parce que ce qu'il y a, c'est que pour ceux qui le savent pas, que je sais pas si j'en avais parlé ici déjà, c'est que j'ai été pendant alors combien d'années, au moins 7 ans ou plus bénévole des Restos du Cœur là où j'étais avant d'être à Castres. Là du coup j'étais en Ardèche et je me suis occupée des bénéficiaires pendant au moins bien 7 ans. C'est vrai que c'était
et de voir ces pubs, ça vous replonge dans cette période.
Ouais.
Qui j'imagine devait être compliqué.
Mais c'est vrai que là, quand tu t'occupes d'une association comme ça, c'est sûr que tu vois franchement les bénéficiaires qui sont plus ou moins dans la misère quand même.
Ouais, ouais.
C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile à. J'allais dire, il faut gérer la misère des gens, si tu veux. Là, c'est. Mais c'était intéressant.
Ouais, donc finalement, ça vous touche encore quand vous voyez des images comme ça. Ouais, ouais.
Oui, c'est des émotions, comment dire, de joie. Hein. C'est pas triste, hein, coup, mais.
D'accord.
Mais c'est vrai que je vais. J'essaierai de repostuler pour aider ici, là.
Mm-hmm. Très bien, ouais, vous nous en parlerez.
Ouais, de l'évolution.
Bon, on me fait des grands signes qu'il faut qu'on s'arrête. Merci Karine, merci tout le monde.
Merci pour votre écoute. On va vous passer un morceau de musique.
Qui c'est qui? Ben Jimmy, dit ce que c'est peut-être.
Alors, c'est...
Auvergne-Wembo, je crois.
Ouais, Auvergne...
Auvergne, non, c'est pas Auvergne.
La chanson, c'est Auvergne-Wembo.
Voilà.
Merci.
Merci à tous. À la semaine prochaine.
Bye bye.
Salut.
Merci. À la semaine prochaine, au revoir.
Ah, ça y est. Of thee, I like the dark and the
think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really sing, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up with the clouds all far behind. Me will travel melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me. Dream that you dare to wipe.